toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour cette troisième émission spéciale Tombée de la nuit 2023. Aujourd'hui, vous pourrez tout savoir sur ce que proposera Hortense Bellotte au 4 bis. Vous entendrez aussi un reportage par Lucie sur Baptême de Terre. Et puis, on va commencer directement par une rencontre avec la chorégraphe et conceptrice pour la compagnie Volubilis de ce spectacle installation Habiter n'est pas dormir. On retrouve dans quelques instants Agnès Pelletier. Bonne émission. Nous allons à présent parler avec Agnès Pelletier de la compagnie Volubilis à propos de cette drôle de proposition qui vous est adressée, habitants et habitantes de Rennes, pendant les tombées de la nuit. Habiter n'est pas dormir. Vous allez voir apparaître Placoche. Elle est peut-être déjà construite à l'heure où on discute avec Agnès, où elle va l'être dans pas longtemps. Une maison de poupée géante. C'est bizarre, avec une absence de murs, ça on ne les voit pas les murs, on voit juste les solives, la structure de cette maison. Et puis à l'intérieur, eh bien, vous allez faire les voyeurs, je pense, vous les passants, puisque vous allez tout savoir de ce qui se passe dans cette maison. On est au cœur de l'intimité d'un collectif. Alors, c'est quoi ce collectif, Agnès? C'est une famille? C'est des amis? C'est une colocation?
On va parler de colocation, justement. C'était pas, j'avais pas envie de donner à voir un... l'idée d'une famille, l'idée d'affiliation. Après, on se raconte bien l'histoire qu'on veut. Mais je suis partie sur des habitants qui ont une différence d'âge qui fait que on peut pas penser à une famille, en fait. Donc, on est normalement 7 colocataires, 7 danseurs, mais 7 colocataires avant tout. Là, on sera 6 parce qu'il y a un danseur qui est blessé. Mais voilà, l'idée, c'est de... Oui, a priori, on peut laisser entendre que nous vivons ensemble. Voilà, qu'on se connaît plutôt bien, parce qu'il y a des moments où on sent que les gens se connaissent, il y a des moments des vrais moments de relation. Et puis après, tout est à le potentiel imaginaire de celui qui regarde, de celui qui observe, et ben après, il est libre.
Au moment où on parle ici, on est place Sainte-Anne, on n'est pas place Hoche, alors que c'est plutôt place Hoche que vous allez voir apparaître cette maison, ses habitants et leurs habitudes, soit regarder un match de foot, soit peut-être danser entre colocs. La place Hoche va l'accueillir pendant de longues périodes, en fait. Ça se décline entre installation et spectacle. Pour vous, c'est vraiment important de l'inscrire dans une durée comme ça pour qu'on comprenne bien à travers la danse les us et coutumes d'une petite peuplade.
Oui, alors après le postulat de départ, c'est clair, on y habite. Après, c'est du spectacle, c'est que du faux. Après, l'idée, comment on peut habiter. C'est quoi habiter, déjà? Donc ça, c'est un vaste sujet sur lequel on a pas mal réfléchi. S'asseoir sur un banc dans sa ville, c'est habiter sa ville? Voilà, c'est cette question-là. Après, on a voulu évidemment parler d'une habitation complètement surréaliste, puisque, comme vous l'avez dit, sans toit ni cloison. On a voulu parler aussi de habiter à côté de gens qui habitent vraiment. Nous, on est habitants de... Bon, ça va durer 2 jours. Donc la journée, en fait, on décline une journée complètement banale, quotidienne, puisque dans cette maison, on se fait à manger, on se lave, on lit, enfin, rien d'exceptionnel. En fait, c'est du quotidien qui est donné à voir. Et c'était l'idée que pendant la journée, cette maison puisse donner le sentiment qu'elle appartient à tout le monde. Donc, elle est ouverte. Elle est ouverte pour venir boire un café, discuter, échanger. Donc là, on rencontre vraiment nos vrais voisins. Donc quand on est plusieurs jours dans ce lieu-là, mais on sympathise avec nos vrais voisins qui le matin, tous les matins, passent nous faire un petit coucou, ou le soir en débauchant, nous adressent de nouveau un petit regard, ou voire carrément une discussion. Évidemment, l'idée, il y a cette forme, entre guillemets, du spectaculaire du soir. Mais pour moi, elle n'avait pas de sens si elle n'était présentée que dans ce format-là. C'est une écriture, ça dure une heure. Et que pour moi, ça passait par un espèce de quotidien, qui, dès le matin, le petit déjeuner, jusqu'au soir, à la nuit tombée. C'est un espèce de déroulé comme ça, banale d'une journée qui passe et d'une soirée qui débute et qui semble finir, puisque effectivement à la fin du spectacle on est vraiment sur la fin d'un cycle en fait.
Dormir est une activité qui peut s'avérer dangereuse. L'anthropologue David Samson étudie le comportement des hominidés. À ses yeux, le zoo offre des conditions idéales pour comprendre le rôle du sommeil dans les performances cognitives des primates.
Selon une hypothèse évolutionniste, les premiers proto-primates, à l'époque où ils se frayaient un chemin entre les branches de la canopée pour trouver à manger, ont décidé un jour de s'allonger là pour dormir. Et toujours selon cette hypothèse, la station couchée leur a apporté des avantages cognitifs.
Pendant cette présence à Rennes de la compagnie Volubilis pour Habiter n'est pas dormir, eh bien vous aurez dès 14h ce vendredi l'occasion de la voir vivre, cette maison. Et puis si vous voulez vraiment épier le quotidien de vos presque contemporains, presque, parce que c'est un peu poussé, c'est un peu exagéré sans doute, ça commence dès 9h le samedi, vous allez forcément être confronté aux habitants qui, pour certains, sont interloqués. J'ai assisté à une petite scène comme ça en arrivant, vous rencontrez ici, une personne qui vous parle d'urbanisme, de mal-logement, de SDF, de personnes à la rue, de qu'est-ce que vous faites, et la métropole dans tout ça. Ça, c'est des choses qu'on vous adresse à chaque fois que Habiter n'est pas dormir sort de Niort.
Oui, alors de toute façon, c'est un sujet, hein, parler d'habiter alors qu'effectivement, beaucoup n'ont pas de quoi habiter ou n'habitent pas bien. Donc forcément, c'est un sujet. Là, on est dans l'espace public. Là, je suis sur un lit dans l'espace public. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Alors qu'on sait très bien que... Là, justement, je discutais avec quelqu'un qui se dit lui-même SDF. Donc je vais reprendre cette appellation-là. Et qui me disait, la dernière fois qu'on a voulu emmener un canapé, évidemment, une heure après, le canapé avait été enlevé. Alors, on a parlé de ça, évidemment. Nous, on n'est pas là, on n'est pas en train de manifester. Alors, si c'est que le spectacle peut être un manifeste, mais moi, je revendique rien derrière. Après, effectivement, on a une vraie conscience de ça. On est dans une installation plastique. C'est une installation qui a été créée par une architecte. C'est un objet plastique avant tout. C'est une installation à l'intérieur de laquelle nous, on est artistes. Mais forcément, ça parle d'habiter, ça parle de notre intime, ça parle du dedans, du dehors, et puis après que ça fait sens forcément pour celui qui n'habite pas, et pour que celui qui habite évidemment. Après il suffit d'en parler. Nous on n'est pas une association militante, on va pas révolutionner le bordel, enfin le sujet malheureusement. Après c'est voilà, après on est, moi je me positionne vraiment sur l'idée de d'un objet artistique.
Pendant Habiter n'est pas dormir, vous pourrez voir ces personnages dans cette maison sans mur, assis sur un canapé, autour d'une table, en train de faire de la cuisine, en train de prendre leur petit déjeuner. Et vous serez peut-être surpris, étonné de voir peut-être une inversion des genres, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous jouez un peu là-dessus, en fait, sur des hommes un peu à la cuisine, des femmes qui ne sont pas forcément là où on voudrait qu'elles soient. Vous jouez là-dessus aussi beaucoup ?
On vit avec nos contemporains, donc c'est pas une vision surréaliste de mettre des hommes dans une cuisine ou des hommes dans une salle de bain. Les femmes n'ont pas le monopole de la cuisine et de la salle de bain, mais effectivement pendant le spectacle, effectivement, ce sujet, enfin en tout cas cette situation est abordée simplement. Après, pareil, hein, moi j'ai rien à revendiquer, c'est qu'à un moment donné, on met le focus sur un quotidien. Sur ce quotidien qui va tantôt être sublimé, tantôt être complètement réaliste. C'est pour ça que ce spectacle, en fait, interroge doublement, puisqu'il y a un espèce de miroir, alors parfois déformant, mais un miroir assez réaliste de ce qu'on peut vivre. Ça parle beaucoup de solitude. Ce spectacle parle des solitudes, parce qu'habiter, on n'a pas triché avec ça, c'est-à-dire que dans le processus de création, nous sommes apparus, nos solitudes, qu'est-ce que c'est d'habiter, mais tout seul, mais même à plusieurs. La solitude, elle est même à plusieurs. Donc en fait, on est comme ça sur quelque chose de qui fait écho, en fait, à, et puis des fois qui dérange, parce qu'on n'aime peut-être pas forcément trop se voir habiter, voir des choses complètement simples, sans relief, faire une action tout à fait simple, avec un mouvement tout à fait simple. Mais nous, évidemment, parce qu'on est danseur, parce qu'on y a réfléchi, parce qu'à ce moment-là, ce mouvement est précis, on sait pourquoi il est là, forcément. Ça lui donne une autre envergure, une autre relation à celui qui regarde. Mais forcément, après, moi, c'est l'idée de... Moi, j'aime les situations. Enfin, moi, c'est mes entrées, mes spectacles, je les invente parce que je m'inspire d'une situation quotidienne et j'aime la déformer. J'aime aller comme ça sur du réalisme et du surréalisme. Donc forcément, cette maison, par moment, ce qui s'y passe est complètement absurde. On est dans ça. Et en même temps, c'est tellement inspiré de ce qui se passe dans la vie de tous les jours que tout compte fait, ça fait écho à tout le monde. Voilà, donc ça peut prêter à sourire, à rire, à peut-être pas pleurer, mais en tout cas à déranger, on va dire. Ouais, peut-être il y a du sensible aussi, ça parle aussi de... Quand il y a cette scène-là dont les spectateurs parlent beaucoup, la scène de la salle de bain, où on a ces quatre hommes qui sont dans la salle de bain, ben voilà, qui prennent soin d'eux, ça fait du bien, je crois.
Comment vous avez travaillé ensemble, Agnès, avec les concepteurs de cette maison ?
Alors, j'ai travaillé avec une architecte qui s'appelle Chloé Baudard, qui peut-être certains connaissent, puisque c'est la lignée de Patrick Bouchain. Voilà, donc si on connaît Nantes et ses constructions et le modèle Patrick Bouchain dans sa manière de concevoir la ville, de reconstruire, de s'inspirer de ce qui existe déjà pour en faire autre chose. Chloé qui elle maintenant est à Bordeaux, vit à Bordeaux et qui a on va dire un objet, mais en tout cas c'est une agence d'architecture, mais qu'elle appelle volontairement compagnie architecture. Et c'est important pour elle puisque dans ses projets de construction, de rénovation, de transformation des lieux, elle parle beaucoup de permanence architecturale. C'est-à-dire que quelque chose un projet qu'elle invente, elle va passer du temps avec son équipe à vivre dans ce lieu-là. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec leur petit camion, et habiter vraiment avec ceux qui habitent vraiment. Et eux qui viennent habiter, et collecter des paroles d'habitants, mais pas collecter, discuter tout simplement, et de vivre le quotidien. Et ça fait vraiment partie de ses projets et de comment elle invente. Comment elle invente un projet architectural. Donc forcément, il y a dans notre relation, c'est marrant parce que quand on s'est rencontrés la première fois, j'avais l'impression qu'elle parlait de danse. Avec ces mots d'architecte qui parlent forcément d'espace, de temps, de relation, et que en fait c'est exactement les mots moi que j'utilise quand je parle de danse et de mon travail chorégraphique. Et elle, vice versa, quand elle m'entendait parler, elle disait mais en fait Agnès, elle parle d'architecture, elle ne le sait pas. Mais en fait on sait toutes qu'on a un vrai commun. C'est ce dont j'étais en train de parler, c'est effectivement le temps, la relation, l'espace. Et comment une conscience de ces trois choses viennent nourrir en fait notre travail à toutes les deux.
Pour terminer cette brève discussion qui j'espère va vous donner envie de la visiter, cette maison qui est plus qu'une maison témoin, hein, j'espère que vous avez compris, proposée par la compagnie Volubilis, Habiter n'est pas dormir, une conception et puis chorégraphie de Agnès Pelletier qui... interprète aussi, hein, vous êtes à tous les postes. Parlons un petit peu pour terminer de l'équipe, est-ce qu'ils vous ont aidé aussi à créer quelques enchaînements ou est-ce que vous avez vraiment tout conçu du début à la fin, cette chorégraphie-là ?
Non, moi j'ai l'habitude de collaborer sérieusement avec mes interprètes, donc moi j'amène le sujet, j'amène le cadre, Je sais où je vais. Par contre, je me nourris de ce qui peut se passer. Évidemment, c'est ce qui fait l'objet de la création. Ce ne serait pas très intéressant de savoir dès le début ce qu'on allait faire, puis après d'arriver à la fin du processus et puis de faire comme on avait dit. Ou alors c'est un solo, puis dans ces cas-là, mais même un solo, heureusement, il y a du mouvement, c'est ça, un processus de création. Donc, effectivement, on a réfléchi tous ensemble. Hein, on a travaillé avec une anthropologue urbaine, on a beaucoup échangé sur le grand sujet de habiter. Puis après, évidemment, dans nos matières corporelles, évidemment. Alors, je ne voulais pas non plus. Moi, j'avais quand même un truc de départ, c'était « ce n'est pas une comédie musicale dans une maison ». Ça aurait pu. Hein. Donc, voilà. Donc, on a vraiment travaillé sur le geste quotidien. Et le geste quotidien, comment, à un moment donné, il devient geste dansé. Mais ça, c'est mon sujet. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'improvisation autour d'un acte complètement banal, qui est, par exemple, découper des légumes dans une cuisine ou simplement circuler dans une maison, les transports d'objets, le tout ça, les rites. Qu'est-ce qui se passe, en fait On a beaucoup travaillé aussi sur celui qui n'arrive jamais. C'est même le fil conducteur de la pièce. C'est-à-dire que on attend toujours quelqu'un, mais ce quelqu'un n'arrive jamais. C'est horrible. Hein. Ça parle du double, le double, triple solitude. Il y a toujours cette attente. Il y a quelqu'un qui doit venir. Donc, il y a un récurrent, je peux vous le dire, qui est la sonnette de cette maison, qui régulièrement retentit, qui nous met en marche pour quelque chose. Et ce quelque chose n'arrive jamais. Ou arrive, mais sous une autre forme. En tout cas, il peut déclencher autre chose chez les habitants. Et c'est ce qui m'intéressait, en fait. Qu'on aurait très bien pu, effectivement... attendre quelqu'un. Par exemple, sur les 7 habitants que nous sommes, on aurait pu être 6 dès le départ et un 6e qui est arrivé en cours de route. Ça, on l'a essayé, par exemple, mais j'ai fait un autre choix d'imaginer qu'on ne pouvait pas visualiser ou en tout cas interpréter le manquant, celui qui n'est jamais là. D'ailleurs, il y a toujours un couvert en plus. Il y a toujours un verre en plus. Voilà, il y a un absent. En même temps, en plus, c'est vrai aujourd'hui, puisqu'on a un des danseurs qui est blessé. Donc aujourd'hui, nous allons interpréter la pièce à 6 et non à 7.
Beaucoup de petits quelque chose dans un très grand quelque chose. On pourrait trouver cette manière-là d'écrire, pourquoi pas. Habiter n'est pas dormir. Allez découvrir donc la compagnie Volubilis et Placoche vendredi et samedi. Dès 14h pour l'installation, 22h pour le spectacle. Samedi, c'est en continu. Merci Agnès.
Merci beaucoup. Et ça dure une heure. Voilà, la pièce du soir dure une heure. Et la journée, vous passez quand vous voulez boire un café ou simplement échanger une petite parole. On sera ravis.
À suivre dans cette 3e émission spéciale Tombée de la nuit 2023, un reportage par Lucie autour de Baptême de terre, une performance rituelle menée par l'artiste plasticien lillois Fred Martin. Le processus est simple, pendant 10 secondes, les participants ont le visage plongé dans l'argile. Le reste, eh bien, Fred Martin et Lucie vous le racontent. Sachez qu'il reste 2 sessions de moulage ce vendredi de 16h à 21h et samedi de 11h à 18h. Rendez-vous pour ça dans la cour du 35 rue Saint-Blaise. C'est gratuit et l'exposition des masques est prévue dimanche de 11h à 21h.
Voilà, vous avez un sympa. C'est exactement ce que je veux.
Donc, bonjour, je m'appelle Fred Martin, je suis artiste plasticien lillois. Je suis invité ici au Tombée de la Nuit pour présenter une performance qui s'intitule Les Baptêmes de Terre. Nous sommes dans une cour qui est assez idyllique, très tranquille et avec une belle atmosphère. Et au milieu de cette cour, j'y ai installé sous le préau 3 bacs remplis d'argile molle, 3 argiles de couleurs différentes, dans laquelle j'invite le public à venir plonger dans une autre dimension, celle de l'argile.
À côté, il y a plutôt une partie atelier, on peut la présenter comme ça
ou... C'est plutôt le cabinet de toilette. C'est après être passé entre mes mains... Et entre celles de l'argile, je vous invite à aller vous nettoyer. Donc il y a des petits miroirs, de l'eau, des savons, des serviettes, afin de prendre soin de vous après avoir fait ce petit masque à l'argile.
Comment est-ce qu'on peut présenter votre parcours? Comment est-ce qu'on devient artiste plasticien? Comment vous l'êtes devenu?
Moi j'ai fait les Beaux-Arts à Lille, à Tourcoing exactement. Donc je suis sorti avec un diplôme et à la suite de ce diplôme, j'ai continué à développer ma pratique et ma démarche autour de mon corps et de la nature, en fait.
Dès l'enfance, il y avait un rapport à la matière
Dès l'enfance, c'était un rapport au dessin. C'est comme ça que je suis rentré aux Beaux-Arts, c'est à part le dessin. Et puis aux Beaux-Arts, j'ai découvert diverses techniques et je me suis vraiment accroché à celle de la sculpture et de la gravure.
Là, ce baptême de terre, cette idée, vous la travaillez depuis 25 ans, vous l'avez emmenée ailleurs dans le monde, ailleurs qu'en France.
Oui, oui.
Est-ce que c'est un dispositif qui a bougé en 25 ans? Il a toujours été le même?
Je l'ai créé en 1999 à l'occasion d'une résidence avec les habitants à Lille, dans le quartier d'Oisem, où j'étais invité à travailler donc, avec les habitants autour d'un parc. Et j'ai eu l'idée parce que je faisais déjà des empreintes de mon corps dans la nature, où je venais déposer mon corps sur des matières molles, que ce soit la vase, la boue, la neige, le sable. Et je prenais des photos de ces empreintes. Et je me suis dit, tiens, on m'invite pour travailler avec des habitants, je vais les inviter à plonger avec moi dans l'argile. Et c'est comme ça que ça a commencé. À l'époque, on faisait les corps entiers. C'était plus délicat, et les techniques, je ne la maîtrisais absolument pas. Puis après, je suis parti vivre en Inde pendant 4 ans. Et j'ai continué ce travail que j'ai développé là-bas, que j'ai affiné au niveau de la technique, au niveau de la matière, au niveau des textures que j'utilise aussi. Et voilà, ça fait 25 ans que je pratique ces baptêmes de terre. Je les ai faits à travers l'Asie, à travers l'Afrique, au Brésil, au Mexique, en Corée du Sud, au Japon. Voilà, ça m'a permis de voyager énormément aussi et de rencontrer une culture, rencontrer ses habitants. Parce que cette pratique-là permet l'échange. Elle est basée sur l'échange de toute façon. Je vous invite à plonger la tête dans la terre, mais pour vous emprunter quelques temps votre tête, votre visage, pour que vous puissiez le restituer à la fin de l'exposition. Chaque fois, ils s'adaptent au lieu où je les installe. Donc, il y a toute une scénographie, on va dire, autour de ce rituel. J'ai aussi travaillé avec une compagnie de théâtre de rue Angevine qui s'appelle Les Arvers, avec qui on a créé ensemble, autour de ce travail des baptêmes de terre et autour de création de têtes monumentales en matériaux naturels, un spectacle qui s'appelle l'Odyssée. Et donc, avec ce spectacle, on a aussi développé ensemble, réfléchi à une autre scénographie que je peux utiliser aussi quelquefois dans mes baptêmes de terre en solo.
On va commencer avec Mme Bazette, qui est journaliste et qui m'a interviewé. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard, donc il faut la punir, c'est elle qui va passer la première.
Je t'invite à poser ton nez, ton menton, à fermer les yeux, prendre une légère respiration, ça dure moins de 10 secondes.
Mm-hmm.
Et avant de rentrer, tu choisis d'ouvrir la bouche, de tirer la langue, de faire un grand sourire.
Mm-hmm.
Le plus important, c'est lorsque tu vas sortir. Une fois que je t'ai poussé à l'intérieur, après que tu aies pris ta respiration, tu te dis souffle. Et là, tu souffles délicatement. En soufflant, l'air va passer entre ta peau et l'argile. Et là, je t'invite à sortir le plus lentement possible.
J'ai besoin d'une texture très molle, très fine, sans cailloux, pour que ça ne blesse pas et puis que ce soit agréable. Là, il y a deux argiles différentes et la troisième, ça mélange les deux pour avoir trois couleurs différentes. Parce que les moulages de plâtre que je réalise dedans prennent la couleur en fait de la terre. Je fais un plâtre liquide et je viens couler du plâtre. Au bout de 10-15 minutes, il sèche et puis je peux démouler le visage, ce qui ressemble énormément à une double deuxième naissance, de sortir ce corps de la terre. Et ensuite, je reprépare la terre, je la malaxe de nouveau, je la raplatis. Et on recommence. Donc les gens plongent le visage dans la même terre que d'autres. Donc moi j'ai des terres, des bacs de terre qui ont plus de 10 ans, où des milliers de personnes ont mis leur tête.
Ça peut aussi être une appréhension dans un monde qui est quand même assez aseptisé de...
Bah, pendant 2 ans, j'ai pas pu faire ce travail-là. Vous pouvez imaginer avec le Covid. La terre est vivante, bien sûr, il y a plein de choses dedans. Que ce soit des microbes, mais là de l'ADN de chaque personne qui a pu laisser une trace. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est que différentes personnes de différentes cultures, de différents niveaux sociaux, de différentes catégories socioprofessionnelles va plonger la tête dans la même terre. Le président, le balayeur, je sais pas, le Sénégalais, le Chinois. Et on est tous identiques face à la terre. Après, j'utilise de l'argile, mais je pourrais utiliser de la terre normale. Mais ce ne serait pas aussi fin, ce ne serait pas aussi agréable. Quand je le fais moi tout seul dans la nature, peu importe la terre tant qu'elle soit suffisamment molle. Mais là, pour inviter le public, je préfère une argile parce qu'il y a aussi tous les bienfaits de l'argile qu'on peut connaître. Mais aussi toute cette symbolique autour de la terre, de l'argile, autour de la création, de la naissance et de la mort. Parce que ce n'est pas innocent toute cette symbolique autour de ce travail. On vient se faire enterrer dans la terre pour renaître par le moulage qui sort de la terre.
Et alors sur le choix de cibler donc sur les visages, on imagine que c'est aussi une plus facile voilà, que de le faire avec le corps entier. Sur le choix du visage, dans une société aujourd'hui où le physique a beaucoup d'importance, où nos visages... Et où même sur les réseaux sociaux, on affiche vraiment juste nos visages qui deviennent nos profils. Qu'est-ce que ça vient dire de vouloir marquer dans l'argile les visages de tout un tas de gens qui vont passer là dans l'après-midi ?
Déjà... Le fait de venir plonger un visage, on travaille sur les sens, on travaille sur la respiration, le fait de fermer les yeux, de laisser une confiance totale à la personne qui vous accompagne dans la terre. Après, on est chacun différent et chacun sa propre personnalité. Donc là, j'invite les personnes à laisser une attitude, à figer leur attitude qu'eux choisissent. Et je trouve ça très intéressant que chacun personnalise, entre guillemets. Chaque participant devient lui-même l'artiste de son propre moulage. Moi, comme je disais, je suis juste un accompagnant.
Peut-être dire que la particularité, c'est que les gens repartiront à l'issue du week-end là, avec leur masque. J'imagine que ça peut avoir un intérêt pour les gens de venir tenter l'expérience, de repartir finalement avec un objet d'art.
Que eux-mêmes ont réalisé.
Ouais, et ça, c'était votre choix. Pourquoi ? C'est une question de stockage aussi, parce que vous en avez dû en faire énormément.
Bon, j'ai dépassé les 10 000 personnes à travers le monde, donc j'ai créé cette performance vraiment autour de cette notion d'échange. C'est-à-dire que j'aime le fait que, grâce à moi, on se retrouve ensemble devant une autre matière et qu'on partage ces moments ensemble, que ce soit moi avec la personne qui va passer, mais tout d'un coup avec le public qui se retrouve en train d'observer ce qui se passe. Eux-mêmes vont commencer à avoir une interaction. Ensuite, le fait de restituer les masques, il y a aussi un troisième événement qui va se passer, c'est que tout le monde va se retrouver à essayer de chercher son visage. Et il va y avoir des interactions entre les personnes qui ne se sont jamais parlé peut-être avant. Par rapport à la préparation de la matière, pour préparer la matière, je la piétine. Soit j'arrive avec de l'argile brute, soit celle-ci est arrivée en poudre. Et j'invite les gens à venir avec moi piétiner, parce que sinon ça prend un temps fou tout seul. Et c'est un moment très gai également. C'est un moment où les gens qui n'ont pas l'habitude d'ailleurs de mettre les pieds dans la terre, les mettent. Et il y a quelque chose d'apaisant, en même temps très sportif, hein, parce que c'est très physique. Et il y a une connexion qui se crée.
Tu fais ça, c'est pour faire chute. Tu es institutrice ?
Ben oui, tu sais.
C'est tout à ça.
80% des institutrices font ça.
Dans tes yeux, dans ta respiration.
Chut. C'est parti.
Souffle et sors lentement.
Où est le cœur ? Où est la tête ? Où est la terre ?
Vous allez appuyer en fait sur la tête pour venir faire ce baptême de terre. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce geste ? Est-ce que justement, selon les cultures que vous avez rencontrées, le moment est reçu différemment par les personnes ? Et même au sein d'une même culture, j'imagine qu'il peut y avoir des moments très différents.
Oui, après, c'est une pratique que je répète, que j'ai répétée des centaines et des centaines de fois. Mais c'est toujours la même chose, et ce n'est jamais la même chose, parce que les gens sont différents selon leur personnalité, leur histoire...
C'est quoi les réactions que vous recevez ?
Oh, il y a de tout, il y a du dégoût, il y a de l'appréhension, beaucoup d'appréhension, parce que le geste est quand même très impressionnant à voir de l'extérieur. Je vous pousse la tête à l'intérieur. On a l'impression que je vous étouffe, alors que c'est que lorsque vous êtes la personne qui est en train de plonger dans la terre, vous ressentez à peine cette pression. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est inviter les gens à aller au-delà de leur appréhension.
Ça dure combien de temps ?
Même pas 10 secondes. Un enfant de 3 ans le fait. Là, il y a la plus jeune à 4 ans. Après, c'est intéressant de le faire avec des groupes d'enfants, par exemple, parce qu'il y a aussi une émulation qui va se créer et une envie. Si l'un le fait, l'autre va le faire. Les adolescents, c'est un peu la même chose aussi.
On peut apercevoir là, certains des masques qui sont en plein soleil là, et qui seront exposés sur le mur. Le public pourra voir dimanche. Qu'est-ce que l'argile montre des aspérités du visage finalement ? Quelle trace est laissée ? Est-ce qu'on parle de quelque chose de très précis ?
Il y a une précision assez incroyable, parce qu'on peut... voir la finesse des traits, les traces des cheveux, des cils, des sourcils, des rides, des lignes sur les lèvres. Si vous mettez un objet, vous allez voir tous les détails. Si vous mettez un tissu, vous allez pouvoir voir la texture. Mais en même temps, c'est un ami qui appelait ça un photomaton préhistorique. C'est comme un peu une photo avec un temps de pose très long. Je vous appuie la tête, donc obligatoirement, il y a une déformation de votre visage. Le nez va s'écraser légèrement, votre peau va s'écraser sur votre crâne. Selon la manière dont vous rentrez, il peut y avoir des choses qui vont se déformer plus ou moins. Je viens saisir le mouvement, cette rencontre entre le visage et la matière. Et en même temps, c'est peut-être le plus vrai moulage que vous aurez de vous, parce que un moulage que vous faites en bande de plâtre, vous êtes figé, vous ne pouvez pas bouger. Vous ne pouvez pas sourire peut-être quelquefois. Tandis que là, on peut sourire, ouvrir la bouche, tirer la langue, faire un bisou. On peut y faire énormément de choses.
Ce qu'il y a de perturbant, c'est qu'on y voit vraiment, je trouve, le côté linceul, le côté sarcophage. Enfin, ça fait vraiment penser à une dimension mortuaire un peu religieuse.
Oui, après, c'est notre culture, ça. Parce que dans notre culture, au XVIIIe siècle, il y a eu les masques mortuaires qui ont marqué, en fait, l'esprit collectif. J'ai fait ça dans d'autres pays. Il n'existe pas, les masques mortuaires. Donc, le regard sur l'objet final est complètement différent.
Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter des choses, des questions importantes que je n'ai pas posées?
Non, je ne sais pas. Puis comme il y a plein de monde... J'ai encore un peu de temps. Voilà.
Merci.
Il y a Jacques Brel qui disait... Au suivant.
Tu viens mettre ton nez à peu près ici. Ta joue touche les doigts. Ferme tes yeux, sens ta respiration. Un grand sourire. Et c'est parti. Souffle et sors. Ça va?
Oui, ça va.
C'est rigolo.
Bonjour, alors moi c'est Florence, je suis rennaise d'adoption et j'aime bien participer aux tombées de la nuit. Alors mon conjoint est venu hier, il n'a pas pu participer, mais il a eu très envie de le faire et du coup on est revenu aujourd'hui
à deux.
À deux, voilà. Et puis c'est bientôt son anniversaire, hein. Je trouve que c'est symbolique aussi, ça va lui faire un super souvenir.
Ouais.
C'est quand même assez surprenant. On se demande si on va s'étouffer, si on va être profondément plongé dans cette argile qui finalement est assez meuble. Et bah, toute la préparation avec l'artiste est importante. Voilà, il nous met vraiment en confiance. Voilà, cet accompagnement met de côté toute l'appréhension. Et pour le coup, on plonge naturellement. Et en fait, c'est tout doux.
Alors, Colin, j'habite Lorient. J'ai 68 ans. Il y a une copine qui m'a déjà fait un moulage du visage avec des bandes plâtrées il y a une trentaine d'années, avec ma fille. Voilà.
C'est pas le même ressenti, là? C'est pas le
Ah bah, ça n'a rien à voir. Pour nous, c'est, qui passons là, c'est très bref, en fait. C'est-à-dire quelques minutes.
Comment décrire les sensations, pour vous?
Oh, alors pour moi, c'était très tactile. Ouais, c'est... l'argile sur la peau, j'ai pas du tout l'habitude, je connais pas ça. Alors, en plus, sous la pression, c'est un peu particulier. Par contre, il y a une chose, c'est comme il m'a détaché les cheveux, c'est ma première couleur.
Un peu un henné.
Voilà, un peu henné.
Alors, vous découvrirez le résultat dimanche, mais vous, votre rapport à votre visage, à l'image, quel est-il?
Ah, je vois ma tronche tous les matins, c'est très bref, hein. Franchement... un tout petit peu plus long quand je pense à me raser, mais ce qui est la plupart du temps d'ailleurs. Non, ça ne me préoccupe pas beaucoup. Du moins que je me souris, ça va. Il n'y a pas de souci.
Allez, je suis juste en interview. Vous m'attendez, hein? Ouais.
Bonjour à tous, je suis Yannick. J'ai 20 ans. J'étais un peu stressé parce que moi, ce qui était le plus dur pour moi, c'était le lâcher prise. Et surtout qu'il fallait contrôler sa respiration lors de la plongée, comme quand on plonge dans l'eau. Donc c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre. Je suis quelqu'un qui a du mal à avoir du lâcher prise et là il a fallu que je me laisse faire. Et quand j'ai vu presser sur la tête, j'avais qu'une seule envie, c'était de ressortir. Donc j'avais très très peur parce que je ne savais pas dans quoi je me mettais. C'est comme quand on ouvre une porte pour ouvrir un autre monde, pour savoir dans quel monde on se dirige. C'est vrai que c'est stressant parce que c'est comme si on ouvre la porte derrière quelque chose qu'on ne connaît pas. Et une fois que je me suis trempé dedans et qu'il a fini de presser, je me suis laissé aller et j'ai senti la douceur sur mon visage. J'ai ressenti un froid intense.
Vous reviendrez sans doute voir le résultat, votre masque et puis ceux des autres dimanche, peut-être le récupérer aussi.
Bien évidemment.
Et ma question, c'était de vous demander votre rapport à votre visage, à vous.
Pour moi, le visage, c'est le visage de quelqu'un qu'on a aimé dans notre vie antérieure. Et pour moi, le visage que je porte, ben, je fais en sorte que mon visage soit bien. Pour moi, c'est comme un cadeau qu'on m'a donné, que la religion m'a donné. Je suis chrétien, mais je crois en la réincarnation, voire même le paradis.
Et quand vous le voyez, votre visage, dans le miroir ou en photo, est-ce que vous avez un regard positif sur votre visage?
Alors, à une époque, non. Mais maintenant, j'arrive à aimer mon visage et je m'aime comme je suis.
C'est vous qui êtes claustrophobe?
Pas tant, un petit peu quand même.
C'est quoi votre prénom?
Émile. J'ai un peu résisté quand il poussait, tu vois.
Le compte, c'est qu'après, je vais voir un dermatologue. Je vais rien lui dire, rien. En effet, vous avez un gros problème à votre peau. Vous sécrétez de l'argile.
Auteur d'allégresse, où nous courons sans cesse.
Merci à Lucie pour ce reportage auprès de l'artiste plasticien lillois Fred Martin. Vous pouvez encore vous faire mouler le visage ce vendredi de 16h à 21h et samedi de 11h à 18h. L'exposition des masques, c'est dimanche de 11h à 21h à Langue et Communication au 35 rue Saint-Melaine. Tout ça, c'est gratuit. Nous poursuivons cette émission spéciale Tombée de la Nuit 2023 avec Hortense Bellotte qui propose Histoire de graffeuse ainsi que Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française. Tout ça a lieu à deux reprises, vendredi pour le premier spectacle que j'évoquais et puis samedi pour le second. On part en musique avec Queen Latifah et Come Into My House et juste après on entend Hortense Bellotte.
Come one, come all. When it comes to lyrics, I bring them. In spring, I sing and fall. I call out to all the ones who had a hard day. I prepared a place on my dance floor. The time is now for you to party. I thought it would be a good chance for you to move. House music always soothes, so get with the flow, let's go. Yo, can you rock to a house group tempo? If so, then shall we let the games begin? What better opposition can you be in? I'm on fire, the flame's too hot to doubt. The pool is open, come into my house.
Lorsqu'on est titulaire d'un Master 2 en histoire de l'art et qu'on a enseigné dans des écoles de design, de marché de l'art et des universités, qu'on est comédienne, qu'on a enseigné et joué pour le théâtre et le cinéma, j'ai l'impression qu'on a déjà tout fait. Eh bien, peut-être on n'a pas encore tout à fait tout fait. C'est ce que, j'imagine, nous dirait Hortense Bellotte, avec qui on va parler maintenant. Bonjour, Hortense.
Eh bien, bonjour. Et merci beaucoup pour cette bio. Et moi, j'aimerais bien prendre ma retraite à 36 ans, ce qui est mon âge.
Bah oui, ça serait tout m'irait. À fait justifié avec tout ce que vous avez déjà fait. Alors, vous venez à Rennes proposer deux conférences pédagogique en forme de bousculade culturelle. La première, on va évoquer maintenant, ça va être Histoire de graffeuse, ça sera donné vendredi soir au 4 bis. Et puis la seconde, Portrait de famille, les oubliés de la Révolution française, ce sera cette fois-ci samedi que vous le donnerez à deux reprises, 17h et 22h. On voit que certaines femmes, et peut-être même toutes les femmes, n'ont pas forcément eu ce qu'elles méritaient en termes de postérité, peut-être en termes d'inscription dans les encyclopédies, dans les Wikipédia de toutes sortes. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de le proposer, cette histoire de graffeuse ?
Pour Histoire de graffeuse, oui, il y a cette idée de postérité des femmes, mais aussi, au-delà de la question de la postérité, c'était aussi une affaire de contre-culture globale, parce que le graphe, c'est un peu une contre-culture déjà en soi, et ça posait plein de questions aussi par rapport à l'histoire de l'art, au monde de l'art, à l'objet œuvre d'art, et ça permettait de décadrer plein de choses. Et cette conférence, je l'ai quand même faite un peu dans la lignée d'une histoire du football féminin, où on a un petit peu la même dynamique, c'est-à-dire comment des femmes arrivent à inscrire leur nom et leur place à l'intérieur d'une pratique qui est à la fois très populaire et à la fois très masculine. Donc c'était une commande du CDN de Besançon et qui était, c'est un peu la problématique qui était comprise dans le sujet lui-même, quoi.
Même si on a entendu tout à l'heure un extrait d'un morceau de rap féminin par Queen Latifah, hein, je voulais coller un petit peu avec l'idée des graffeuses, ça monte bien avant les années 1970-1980, où on commence à voir apparaître, et ça c'est la partie la plus visible encore aujourd'hui, quelques graphes du côté du métro de New York. Non, vous commencez bien avant ça.
L'idée, c'est que effectivement, en tant qu'historienne de l'art, moi j'étais spécialiste des périodes anciennes, plutôt du XVIIe siècle français, ce qui n'a a priori rien à voir avec la contre-culture underground, mais j'essaye de faire des liens justement entre ce parcours des femmes dans le graffiti et dans le street art. Je travaille un peu sur les deux entités qui sont pas exactement les mêmes quand on va un petit peu dans le détail, et j'essaye de leur trouver un peu des généalogies plus anciennes, et donc ça peut remonter aux peintres femmes du XVIIIe siècle, ça peut remonter aux muralistes mexicaines des années 1930, voire même aux artistes des grottes pariétales. Mais sinon, je me concentre un petit peu quand même sur une chronologie qui serait l'apparition du mouvement street art et hip-hop, qui est les années 60-70, et après son emballement avec le mouvement hip-hop des années 80-90. Et ma question, c'était pourquoi aujourd'hui, des femmes, artistes ou non, avec ce truc à mi-chemin entre l'art et le militantisme, s'emparent de cette pratique-là, et qu'est-ce que ça veut dire, ce renouveau du graffiti et du street art dans le langage militant et dans le langage de la rue, qui se fait par les femmes comme une reprise de l'espace public, quoi.
Comment ça se fait justement qu'il soit repris cet espace public et que ce soit notamment par les femmes?
Je crois qu'il y a eu beaucoup d'opérations de contrôle et des graffitis et du street art. Disons qu'il y a un développement du mouvement. Du mouvement hip-hop qui est sans doute un petit peu équivalent en musique, en danse et en art graphique, mais où d'une part ça a été à la fois extrêmement récupéré par les institutions officielles du monde de l'art, etc., où on a un truc vraiment à deux vitesses, où dans le monde du street art, le street art est dans les galeries, il y a des municipalités qui commandent des œuvres de street art, etc., et en même temps on est toujours dans un contrôle du visible et avec une pénalisation de tout ce qu'on considère comme vandale, qui va être le graffiti non autorisé, et notamment tout ce qui est du côté qui va être rangé du côté de la dégradation, et dans lesquels on range aussi en fait tout l'aspect militant et qui moi m'intéresse énormément, et comment avec des nouvelles vagues de militantisme aujourd'hui, et ben on voit que c'est un peu cyclique, le street art reste quand même, où le graffiti reste quand même un enjeu de politisation de l'art qui est énorme. With a little pizzazz from the queen of royal badness. Remember me from Wrath of My Madness, it's my rap. That rocks this party, I'm a hijack. Inject your body, this is not an erotic interlude. Keep in mind, I move multitudes. The Asiatic black woman, hardcore beat drumming. It's hard to keep a good woman down, so I keep coming. Blow for blow, I take and I give some. Still I rise and I symbolize wisdom. I hope the lyrical display has you aroused. It's an open invitation, come into my house. Don't make me wait, come into my house.
Vous aviez donné pour Arte une web-série Merci de ne pas toucher qui sexualisait les chefs-d'œuvre de la peinture classique. Est-ce que c'est là que sont nées ces histoires de graffeuses ou c'est tout à fait deux choses différentes?
Alors, c'est pas moi qui sexualise les tableaux. Attention, les tableaux sont hyper sexualisés et hyper avec des sous-entendus érotiques énormes. Et simplement, disons que c'est la muséographie, enfin la patrimonialisation de ces tableaux, et puis le temps qui passe, hein, les ont comme vidés de leur signification érogène. Et l'idée, c'est grâce à des outils d'histoire et d'histoire de l'art et d'analyse esthétique, comment leur rendre ce qui est déjà à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein. Je n'amène rien de plus que leur perversité intrinsèque. Voilà, juste pour me défendre de ça. Mais effectivement, cette commande de Histoire de Graffeuse, qui était du Centre Dramatique de Besançon, était vachement liée à la conférence Histoire du foot féminin et aussi à ce que j'avais fait sur Arte. Et dans la demande, il y avait un peu cette idée de travailler aussi sur la figure, sur la question genrée et aussi sur le caractère sexuel. Et ce qui... la commande était aussi dans un dialogue avec la création d'une street artiste de Besançon qui s'appelle Oxy69 et qui utilise énormément la vulgarité, et là qui faisait une série de reprises de tableaux classiques en mode cochonne. Donc il y avait une cochonde, donc une joconde avec une tête de cochon et les seins à l'air, et toute une série comme ça de reprises de tableaux classiques version un peu sexy provoque, et qui jouait sur la question de la vulgarité féminine et comment se réapproprier aussi tout ce langage érotique, vulgaire du sexe, simplement, comment ça pouvait être un enjeu aussi militant aujourd'hui pour les femmes.
Moi, je n'ai pas vu encore Histoire de graffeuse, ni aucune image. Je préfère me réserver pour la vraie version ici à Rennes vendredi soir. On imagine quelque chose à mi-chemin entre un cours au Collège de France et puis quelque chose de l'ordre du stand-up. Est-ce qu'on va encore ailleurs que là où je crois être, moi, quand je disais ça à l'instant?
Eh ben, on y est un peu entre les deux. Alors, disons que du Collège de France, je prends une bibliographie, un PowerPoint, voilà. Enfin, on est un peu sur un modèle de cours par ça. Et puis l'envie de savoir et l'envie de partager des connaissances et qui sont à la fois des connaissances très établies et en même temps des questionnements. L'idée étant de se questionner aussi avec le public sur des choses. J'amène plein de sujets. Et du stand-up, on a le côté très autobiographique. À chaque fois, j'ajoute pas mal de trucs d'histoire très personnelle, donc de mélanger la grande histoire à la petite histoire, et aussi la culture pop. L'idée, c'est de déhiérarchiser un petit peu les échelles culturelles en se disant que on est tous faits culturellement de tout un tas de trucs. On est allé voir aussi des grandes expos et puis des tout petits machins. Et ça, le sujet même du graffiti nous oblige à faire ça, puisque on est à mi-chemin entre ce qu'on pourrait appeler du grand art et de la petite œuvre mineure éphémère.
Entendiez à l'instant dans cette émission spéciale Tombée de la nuit 2023 au milieu d'une discussion avec Hortense Bellotte, et bien vous entendiez Henriette de Beauménil, un extrait de sa symphonie Tibulle et Délie. Ça date bien de la fin du XVIIIe siècle, et ça tombe bien parce qu'on va parler des oubliés de la Révolution française, de ces portraits de famille. Autre conférence spectaculaire qui sera donnée par Hortense Bellotte cette fois, ce sera samedi 8 juillet à deux reprises, 17h et puis 22h au 4 bis, histoire de se rendre compte que si on a un peu oublié les graffeuses, eh bien on a aussi oublié peut-être certaines participantes ou participants d'ailleurs à la Révolution française. Alors vous êtes toujours Hortense, comédienne, performeuse, autrice et historienne de l'art. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller faire revivre ces portraits de famille, à les faire réapparaître? Ils avaient un peu disparu des encyclopédies et puis des musées, ces oubliés EES là.
Cette recherche là, moi, c'est une recherche que j'ai commencée il y a 10 ans. Vraiment par hasard, on va dire, c'est presque eux qui m'ont trouvé. Et j'ai commencé à m'intéresser à des personnes qui étaient les personnages noirs dans les peintures françaises. Et je trouvais pas beaucoup de littérature là-dessus à l'époque. Et je me disais, tiens, au-delà de la métaphore picturale de la couleur noire, qui étaient ces gens? Et qui étaient ces vrais gens au-delà du symbole ou de l'archétype. Et en allant chercher un petit peu ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de tableaux de personnes noires qui avaient été peints par des femmes artistes. Et là aussi, pareil, je me suis dit, tiens, je connaissais pas autant de femmes artistes. Et en allant regarder, je suis tombée un petit peu sur toute une espèce de, qui serait une espèce de micro-société parallèle de gens dont on ne m'avait jamais parlé et qui pourraient se résumer à des Français noirs, des femmes émancipées, des femmes artistes, intellectuelles, des personnes queer ou transgenres et globalement tout un tas de personnalités sociales qu'on considère comme très moderne, très actuelle, comme si la France avait créé ou auto-généré ces individus depuis les années 1960. Et en fait, tout d'un coup, je me rendais compte qu'ils étaient déjà là et qu'ils nous ressemblaient énormément dès la fin du XVIIIe siècle. Et la fin du XVIIIe siècle, c'est pas rien dans l'histoire de France, puisque c'est la Révolution française, c'est le 14 juillet 1789. Et tout d'un coup, c'était toute notre représentation de l'idée nationale, de l'identité nationale, qui basculait, puisqu'il ne s'agissait pas aujourd'hui d'intégrer des nouveaux groupes, mais bien plutôt de leur rendre hommage et d'accepter le fait que ces groupes-là ont fait partie de la création même de l'État français et qu'ils en sont sans doute le socle commun. La marge, tout d'un coup, revenait directement au centre. Et donc je me suis laissée emporter par cette espèce de d'élan et d'élan de recherche et où je me suis dit mais c'est dingue, je n'ai jamais entendu parler de tous ces gens-là. Heureusement, depuis une dizaine d'années, il y a eu quelques ouvrages et déjà à l'époque, des historiens avaient écrit des thèses là-dessus sur le travestissement à l'époque moderne, sur être noir en France au XVIIIe siècle, sur les femmes peintres. Mais il y avait quelque chose qui était un petit peu laissé à la porte des bibliothèques. Et que même moi, avec mon master 2 d'histoire de l'art, j'avais jamais accédé à ces histoires-là. Et je me disais, merde, ces histoires m'auraient quand même beaucoup aidé à vivre et à vivre sereinement tout ce qui compose aujourd'hui mon identité et à réconcilier aussi des inconciliables à l'intérieur même de mon quotidien. Et donc, je me suis laissée emporter par ça et j'ai mis au jour une douzaine de personnages que j'ai un petit peu agencés comme ça. C'est des personnages qui vont du 1770, avec le premier couple de personnages qui est la du Barry et Zamor, qui était son domestique. Et puis, on va jusqu'aux années 1820. C'est un peu la date extrême avec la figure d'Ourika, qui est à la fois une adolescente réelle qui vit pendant la Révolution et le nom d'un roman de Claire de Duras dans les années 1820. Et tout ça me permettait d'organiser une espèce de grande fresque historique. Ça pourrait être un opéra, justement. Vous parliez de musique. Et merci pour la découverte. Je ne connaissais pas cette compositrice-là. Moi, j'ai un compositeur qui figure dans mon petit corpus. C'est le Chevalier de Saint-Georges, qui a croisé très certainement Mademoiselle de Beauménil dans les grands concerts et de l'opéra de l'époque.
Le Chevalier de Saint-Georges, compositeur noir et qu'on n'a pas forcément tous encore en mémoire.
Très certainement. Et malheureusement, mais lui, c'est vrai que heureusement, il fait partie de ces figures qui ont tellement un espèce de fond un peu héroïque, immanent, les Américains viennent de lui consacrer un biopic, un gros film à gros budget qui devait sortir en France, qui sortira peut-être simplement sur les plateformes, mais en tout cas, il commence à être un petit peu redécouvert, comme la figure du père d'Alexandre Dumas, par exemple, qui est aussi un grand général des révolutions, etc. Eux, ils correspondent quand même un peu plus aisément à ces figures de héros. Et ce qui m'intéressait moi aussi, c'était d'aller chercher aussi des figures de gens qui n'arrivent jamais à accéder au statut de héros, soit parce que ils meurent trop jeunes, ou parce que ils ont perdu, ils sont arrivés deuxième, ou parce que il y a un moment ils ont lâché l'affaire, quoi. Parce que la désespérance, c'est aussi quelque chose qui fait l'humanité. Et quand la société nous rend la vie trop difficile, il est assez aisé de renoncer au destin héroïque.
Hortense Bellotte, pour terminer cette rapide discussion autour de ces deux conférences spectaculaires que vous proposerez à Rennes pendant les tombées de la nuit, Portrait de famille et les oubliés de la Révolution française et puis Histoire de graffeuse, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus précisément d'une de ces personnages qui était le moins connu de votre part et pour laquelle il a été vraiment un peu plus coton que pour les autres de trouver des éléments biographiques.
Eh ben, il y a un personnage qui c'était vraiment très coton, comme vous dites, et c'est un enfant. Et parce qu'en fait, il n'y a pas eu encore de gros articles parus dessus. Et c'est Jean Amilcar, qui est un enfant qui est envoyé par le gouverneur français de l'île de Gorée, donc au large du Sénégal, et qui est envoyé en cadeau à Marie-Antoinette. comme un objet. Et ce n'est pas le seul enfant que ce cher gouverneur envoie. Il en a envoyé, enfin, dans les lettres, on en a la trace de au moins 5 ou 6, je crois. Donc, ça veut dire des enfants de 4 ans, 5 ans, qui une sorte de, on ne sait absolument pas d'où, c'est-à-dire qu'ils ont été volés à leurs parents, est-ce que, on ne sait pas, en tout cas, ils sont déportés sur des bateaux et ils arrivent comme ça, donc, dans des grandes familles. Et lui, ce petit-là, il arrive à Versailles seulement, et ben, il arrive à Versailles en 87. Et donc on le met dans une école et en 89, bah il y a tout qui part en sucette et officiellement sa tutrice, bah c'est Marie-Antoinette quoi. Donc très vite, bah il y a plus de Marie-Antoinette et donc il se retrouve entièrement seul. Et malheureusement, c'est une histoire assez peu documentée, juste par des lettres. Et moi-même, j'ai trouvé le vent de cette histoire par un article publié par un archiviste non professionnel au tout début du XXe siècle. Et mon idée, c'était aussi quand même de rendre vachement hommage aux archivistes non professionnels. C'est-à-dire que là, lui, par exemple, c'était juste un ancien magistrat à la retraite qui écumait les archives de Seine-et-Oise. Et même toute la documentation sur le fameux gouverneur qui l'a envoyé, là aussi, les meilleures documentations que j'ai trouvées, c'est un ouvrage d'un archiviste non professionnel qui était pareil, un retraité de la marine qui s'est passionné pour les archives militaires. Et en fait, grâce à ces bouquins qui sont complètement obscurs, j'ai réussi à reconstituer ces petites villas. Et je crois que le travail d'historien, c'est aussi un travail qui peut se démocratiser. Et il y a un peu, on peut aussi être un peu nous tous historiens. Des archives, il y en a plein, et même les petites archives. Voilà, c'était aussi une reconsidération de la petite histoire en règle générale.
Vous connaîtrez l'histoire de Jean Amilcar et puis d'autres anti-héros, anti-héroïnes qui ne répondent pas tout à fait aux critères de la panthéonisation. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont noirs, parce qu'elles sont femmes, ce sont des personnes non-binaires. On retrouve donc Hortense Bellotte à deux reprises, je le dis une dernière fois, vendredi pour nous parler de graffeuses, avec Histoire de graffeuses, et puis samedi pour nous parler de ces oubliés EES de la Révolution française. On va terminer avec à nouveau Henriette de Beauménil et puis retrouver toutes les informations qu'on a laissées de côté sur tombedelanuit.com. Merci Hortense et bonne conférence spectaculaire à vous.
Eh ben merci beaucoup. Et si je peux ajouter juste un truc, c'est drôle quand même. Là, on n'a parlé que du fond, mais dans la forme, c'est de la grosse connerie quand même. Ça reste léger.
Retrouvez Hortense Bellotte à deux reprises au 4 bis samedi 8 juillet à 17h et à 22h pour vous faire ses portraits de famille, les oubliés EES de la Révolution française. On écoutait une pièce de Henriette de Beauménil, l'extrait de Tibulle et Délie. On poursuit et on termine cette émission spéciale Tombée la nuit avec ce que vous retrouverez au Grand 8, joli embryon de parc d'attractions proposé par la famille Masclay. Ça se trouve juste à côté de l'école maternelle Kineleu, juste derrière la gare. Et samedi soir, vous y retrouverez Baya El Bacha, la rencontre très classe entre Justin Adams et Mauro Durante, avec des ambiances mêlant le blues subsaharien et la tradition de la tarentelle des Pouilles. Vous retrouverez aussi, pour terminer la soirée, le DJ Rennais Light Panel. Et puis on écoute maintenant pour terminer cette émission, les Bacchantes, que vous verrez donc au Grand 8 samedi soir. Tout ça, c'est gratuit. Toutes les infos sur lestombedelanuit.com. On se retrouve à 17h ce vendredi pour une émission de Boule Vanille qui n'aura rien à voir avec les Tombées de la Nuit. Et puis, on se retrouve samedi à 14h, horaire spécial avec Isabelle pour vous parler une dernière fois des Tombées de la Nuit 2023. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !